9h dans le bureau de Par Jupiter.
Qui s'occupe de la Jupi Masterclass de cinéma aujourd'hui, Charline?
C'est Frédéric Segrist.
Ah, ben on change les règles donc.
Hein, comment?
Ouais, bah, qu'est-ce que tu connais toi aux règles?
Hein?
Alors, eh ben, vous l'avez pas? Les règles, Guillaume, qui n'est pas une femme.
Super, Juju, super.
Bah oui.
Mais quelles règles, Guillaume?
On avait dit les invités, ils viennent qu'une seule fois.
Ah ouais, mais les Jupi Masterclass, c'est pas pareil. Hein.
Bah attends, mais je vois pas pourquoi. En fait, tu fais ce que tu veux avec les règles.
Bah, vu que c'est les miennes, en fait, ouais, je fais ce que je veux, ouais.
Ah ouais,
ouais, alors que techniquement, c'est pas possible de faire ça avec les règles.
Non, mais...
Juju, tu veux bien arrêter avec ce jeu de mots là?
Bon, et il fait quoi comme film, c'est toi?
Alors, vu que la dernière fois, c'était Hulk, moi je parie sur Captain America. Oh. Et vous?
Non, c'est pas logique. Moi je dis Black Panther.
Ouais, mais comme il est féministe, je vais changer et en fait, je vais dire Wonder Woman.
Bon, je vois qu'on est bien parti pour bosser encore une fois. Hein. Alors, je vais aux toilettes, quand je reviens, on s'y met. Hein.
Alors, attends, Guillaume, je change encore. Sigrist, il est pointu, il va nous sortir un film mythique, mais qu'on a tous oublié.
Attends, Juju, t'as pas compris? Le retour de Sigrist, comme par hasard.
Mais comme par hasard de quoi?
Mais c'est la fin de la saison. Charline, elle prépare la prochaine. Comme par hasard, elle change les règles. Elle réinvite Sigrist.
Bah non, je crois pas. Elle aime beaucoup Frédéric, voilà
tout. Mais qu'est-ce que tu comprends pas dans comme par hasard? Elle l'aime beaucoup et puis surtout elle veut nous remplacer l'année prochaine, oui.
Oh mon dieu, mais c'est horrible.
Bah, oui.
Mais qu'est-ce qu'on fait?
Mais on lui prouve qu'on n'est pas remplaçable. Voilà, attention, elle arrive.
Guillaume,
oui.
Est-ce que s'il te plaît, tu peux me rendre mon monde diplomatique, s'il te plaît?
Oui, je l'ai fini. J'attaque courrier international, tiens.
Ah, alors vous avez arrêté de jouer là, c'est bon?
Oui,
bah,
tout à fait.
Parce que là en fait, moi j'essaye d'avoir Mbappé comme invité la semaine prochaine ou Gorbatchev, je suis pas trop sûre.
Moi je prépare mon prochain micro-trottoir à Mariupol.
C'est ça, ouais.
Bah, ouais.
On vous a perdu là en fait.
Hein?
Heureusement qu'on fait revenir Sigrist hein, aujourd'hui, parce que.
Comme par hasard.
Bienvenue chez les petits architectes du LOL.
Comme par hasard.
Et voici la devise du jour. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un Anglais d'entrer
au Stade de France.
Bonjour Juliette Arnaud.
Tous ensemble.
Bonjour Charlie. Vous poursuivez la lecture de La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas. Mais Dumas fils, pas le père. Et La Dame aux Camélias, c'est la pièce de théâtre, pas le roman. Mais c'est la même histoire inspirée de la relation entre Dumas et Marie Duplessis.
Je reconnais que j'ai pas eu un flash comme ça depuis la petite caissière de Bricorama.
Fin de citation. Salut Guillaume Meurice.
Bonjour Charline.
Aucun sujet ne vous arrête.
Mais bien évidemment que non. Et pour ce Par Jupi Class, je vais vous parler des enfants de djihadistes français en Syrie.
Aïe.
Sujet sympatoche. Je suis allé voir les gens pour avoir leur avis.
Moi, je dis qu'il faudrait demander à James.
Oula, double sujet, on peut même faire avec ça.
Oula vache, ouais. D'accord. Et la Jupi Masterclass de cinéma vous est proposée par Frédéric Sigrist, bonjour.
Comme par hasard.
Oui.
Bonjour Charline, bonjour tout le monde.
Vous avez revu le film de John McTiernan, Le 13e guerrier, qui rappelle que des vikings pouvaient faire équipe avec un arabe.
Le pluralisme, le métissage, je dis bravo et merci bien. Hein. Ce sont de nouvelles tendances qu'il faut encourager. Hein. Le lieutenant Sandernagor ne disait-il pas le racisme? C'est un homme qui se trompe de cagoule.
À mes côtés, la stéphanoise de la troupe, Juliette Arnaud.
Bonjour à tous et voici le reste de l'équipe. Trois femmes qui ont été approchées par le ministère de l'Éducation nationale. Rapport au déficit de professeurs, la première saura préparer les élèves au concours du Quai d'Orsay en enseignant l'art de rechercher la substantifique moelle de l'esprit belge pour l'expliquer aux Français. Et si c'est touchy, personne ne s'en rend compte. C'est ça, être un premier prix d'élocution.
Absolument.
Bonjour Laurence.
Et bonjour. Alors on va parler de la voix du sacre du printemps belge où des trucs qu'on pensait pas voir de son vivant arrivent quand même. Ça vous embouche.
Ah bah là, je suis muette. La seconde adoucira les mœurs des mômes grâce à son cours de composition musicale et réglera le problème de leur cauchemar nocturne grâce à elle et à ses chansons. Les mauvais rêves, eh ben, ils les feront de manière diurne. Bonjour Yadré.
Bonjour, ils les vivront dans la vraie vie. Aujourd'hui, je vais parler aux enfants, surtout aux enfants garçons, de quand parfois ils sont amoureux d'une fille et ils aimeraient bien avoir une histoire avec elle, mais qu'elle, elle ne veut pas.
Ah,
c'est
oui.
Compliqué.
Mmh. Ah oui, c'est le mot en plusieurs syllabes qui commence par con. Sans. Ok. La troisième va devoir descendre cendres de sa chair de maîtresse de conférence pour aller en primaire et expliquer à Dylan François que c'est pas en criant caca boudin dès qu'il est frustré qu'il va s'émanciper stylistiquement.
Oh, bonjour, Laïa Véron. Aujourd'hui, je vais parler de pronoms démonstratifs. Ça vous donne envie, hein?
Oh, voilà. Oui, c'est excitant.
Caca boudin.
Dylan François, taisez-vous. Et puisque selon l'ONU, c'est la journée internationale des parents, ne vous inquiétez pas, on s'occupe des enfants avec un journal moins exhaustif qu'hilarant, des exercices aussi instructifs que marrants et un dessin de votre sieste garant. Jupiclass, en avant!
France Inter, Charline Vanhoenacker, Juliette Arnaud, par Jupiter.
Non, par Jupiclass, en boulot!
Vous voilà bien informé sur le déroulement de ce programme sur France fait. Inter.
C'est un beau sommaire. Voilà. Moi, je vais écouter en tout cas.
On met la journée à l'écrire.
Ça, oui. Hein, bah oui,
donc,
oui,
depuis, à partir de ce moment-là, plus rien n'est écrit.
Moi, je propose qu'on s'arrête là.
Frédéric Sigrist est en notre compagnie. On attend donc votre Jupi Masterclass de cinéma à la fin de l'émission, Frédéric. Alors, vendredi matin, on vous retrouve sur cette antenne, bien sûr, comme tous les vendredis matins pour
tout
votre chronique.
Tout à fait. À 6h56, chez Mathilde Munoz.
Tout à fait, à la fin du 5-7, donc. Et vendredi soir, car vous ne vous arrêtez jamais, vous allez jouer au festival Montois du Rire, c'est ça ?
Oui.
Alors Montois avec O-Y.
Voilà, c'est un festival organisé par Ian Stutz, un autre humoriste qui ne savait pas comment réunir des amis pour boire des coups, et donc il a monté un festival comme la quasi-totalité des festivals d'humour en France.
Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, Guédré est bien placé pour le savoir.
Absolument. Ah, un promo pour notre festival,
début août. Dans les Cévennes.
6 août à Anduze, dans les Cévennes. Mais nous, on a fait un peu humour et musique parce qu'on veut boire deux fois plus de coups. Donc, c'est un festival qui s'appelle LOL et LALALA. Il y aura de l'humour et de la musique dans les Cévennes les 5 et 6 août.
Oh, et donc, un festival organisé où il y aura notamment Pierre-Emmanuel Barré qui organise
Oui, absolument. On organise les trucs pas loin de chez nous, comme ça, voilà, pas trop de déplacements. Et puis, des artistes que vous connaissez un petit peu ici. Il y aura Aymeric Lomprey.
Ah, j'aime.
Notamment Thomas VDB.
Mais c'est pas vrai. C'est
Jupiter. Une grande buvette quand même. Hein.
Jupiter est délocalisé.
Grande buvette.
Mais alors, il se passe où alors, Frédéric Sigrist, ce festival?
C'est dans l'est de la France, près de Metz.
D'accord.
Voilà, en fait, je rentre à la maison.
Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est chez vous, ça. Très bien. Frédéric, vous faites partie de la troupe aujourd'hui, pour la deuxième fois. Merci beaucoup d'avoir accepté. Et elle nous revient de l'ascenseur émotionnel. Elle a rempli le Cirque Royal de Bruxelles, voilà, un triomphe. Elle a inauguré le tunnel Annie Cordy à Bruxelles.
Oh là là.
Elle a partagé la scène en famille avec les chanteurs Marca, qui fêtaient son anniversaire, Roméo, Elvis et Angèle, qu'elle connaît assez bien. Et elle a trouvé le temps de passer par Paris, banlieue de Bruxelles bien sûr, pour sa chronique. C'est Laurence Bibot.
Ouais.
Alors, la voix du sacre du printemps belge, oui, parce que, chers amis, de mon vivant, il y a beaucoup d'événements auxquels je n'assisterai sans doute pas ou plus. La rénovation du palais de justice de Bruxelles, je veux dire la rénovation des échafaudages qui maintiennent le palais, ça sûr. Des températures de saison en saison. Et puis, il y a des événements auxquels je n'aurais jamais pensé assister de mon vivant. Le sacre du cinéma belge à Cannes. Trois films dans le palmarès, dont évidemment les Dardennes. Nos Dardennes, c'est un peu les Stromae du cinéma, c'est des radicaux, qui ont réussi à imposer une nouvelle grammaire de l'image. Aujourd'hui, filmé de dos, ou la nuque d'un personnage que tu suis, caméra à l'épaule, c'est comme un personnage qui est toujours un peu vénère. Ces plans se sont imposés jusque dans les séries américaines les plus récentes. Je ne serais pas étonnée que dans les écoles de cinéma, on enseigne aujourd'hui le plan américain, le plan ampli, le plan Dardenne. Qui aurait cru que le renouveau viendrait de Sorin, là où les frères ont grandi, la ville martyre, symbole du déclin industriel? Qui aurait cru à l'existence d'un axe Cannes-Serein? Parce que je vous le dis tout de suite, il n'y a pas plus opposé. Alors attention, Cannes, c'est pas que clinquant. J'ai eu la chance, quand j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune, d'être invité au festival pour défendre le film belge Ma vie en rose. Eh ben, on dort pas tous au Carlton. Nous, en tout cas, comédiens, petits comédiens, on était logés chez Pierre et Vacances. Bon, eh ben, on se dit qu'il y a toujours plus à plaindre que soi. Parce que nous, on était chez Pierre et Vacances pour deux nuits. Il y en a qui sont chez Pierre et Vacances pour toutes leurs vacances. Donc, franchement, c'est vrai, c'est Cannes, c'est une expérience à vivre, mais de loin, en télé. Alors chaque année, moi je regarde la cérémonie de clôture et chaque année je m'incline devant les comédiennes qui viennent chercher leur prix d'interprétation. C'est du grand art. Premier mouvement, elles arrivent très émues. Elles ne savent pas parler. Mais oui, parce qu'elles ne peuvent pas dire merci pour le prix, on se retrouve au bar. Je veux dire, elles ne sont pas toutes. Elles sont pas toutes belges. Alors, deuxième mouvement, elle remercie beaucoup de gens qu'on connaît pas. Merci. Merci à Jacques Fourbe-Dambert, Monique Mimolette, Catherine Chèvrechaud. Et enfin, troisième mouvement, la citation. Et là, on prend son temps. Mais ça, la notion de temps à prendre et éventuellement à faire perdre aux autres, c'est pareil. Hein. Même au Molière, il faisait pareil. Ça, c'est un temps qui est propre à la profession. Alors, elle commence. Comme le disait Platon, le cinéma, c'est le stylo de la cartouche de l'encre des images. Mais c'est peut-être pas de Platon. Alors, c'est une profession.
C'est tellement ça.
C'est une profession où on cite beaucoup. Je suis pas sûre qu'à la grande cérémonie de prix du meilleur plombier, il y en a qui disent, comme le disait Marcel, le déboucheur, il y a tuyau et tuyau. Mais. Enfin, le cinéma, il y a ceux qui le font et ceux qui le regardent. Et le son que je vous propose, c'est un couple passionné de cinéma qui le regarde passionnément.
Le premier cinéma ici à Montfercy-Bollée, c'était à la Maison du Peuple. Je copiais déjà un peu les actrices. Je me suis fait couper les cheveux avec des chiennes, comme Louise Brooks. Un beau jour, je vois arriver un grand monsieur qui avait les cheveux à la rue de Valentino, bien lissés. Et il me fait signe, mademoiselle, cette place est occupée. Et je lui dis tout de suite, monsieur, elle est réservée et c'est pour vous.
Alors évidemment, il y a beaucoup de vocabulaire que les plus jeunes, hein, Louise Brooks, Rudolph Valentino, et le mot chienne, je pense que vous ne savez pas, mais chez nous, une chienne, c'est une frange.
C'est une frange.
On se coupe la chienne. Alors je sais, ça peut exciter certains, mais c'est une frange. Voilà.
On porte la chienne.
On porte
D'accord.
la chienne.
C'est quand même un peu excitant.
Eh ben tant mieux.
Laurence Bibeau, merci. Et non seulement trois films belges primés à Cannes, mais Virginie Efira en maîtresse de cérémonie Absolument. Au début et à la fin.
Mais je voulais pas non plus, tu vois, écraser.
C'est vrai que.
Voilà,
c'est vrai que ça doit être frustrant pour les Français, non? Ah, vous êtes là, pardon.
Pardon,
les Français nous écoutent, excusez-nous.
Nous, on essaie d'organiser des ligues de champions, on est occupés.
Ouais, voilà, c'est ça, je comprends. Laurence Bibeau, à réécouter, bien sûr, avec toutes ces intonations et ces influctuations de voix.
Ces influctuations, oui, et que ferait-on sans les
influctuations de voix?
Les influctuations de voix.
Allez, Serge Gainsbourg, Ecce Homo.
Oh,
écoutez France Inter. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est donc par Jupiclas.
Oui.
Et Guillaume Meurice s'est très très bien appliqué pour écrire son petit journal.
Oui, madame.
Ce qui a été constaté, c'est une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets. Puisque les pré-filtrages évoqués par le Stade de France et la Fédération Française de Football prévoient plus de 70% de faux billets à l'entrée du Stade de France.
Le journal de presque 17h17.
Et vous trouvez ça drôle?
Non, je trouve ça bizarre. Moi non plus.
Et on commence par les titres.
Dans ce journal, on parlera de Rachida Dati.
Oh là, oui, donc on fait un journal écrit en 2009.
Et dans ce journal, on parlera aussi de François Hollande.
Oh là là, oui, non, un journal écrit en 2002, plutôt. Ouais.
Et enfin, dans ce journal, on parlera également de Alexandre de Vecchio.
Oh là, bah on bascule directement en 1930.
Ouais.
Retour en arrière. Et on commence par la politique.
Face aux nombreuses critiques sur la gestion des événements du Stade de France, Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement, a reconnu que, et je la cite, « les choses auraient pu être mieux gérées ».
Oh, bah j'aurais pas dit ça, moi.
Mais
je trouvais ça cool, le truc du brumisateur sur les gosses qui avaient chaud, là.
Oui. Guillaume, c'était des lacrymos.
Oh, là, mais qu'est-ce que vous pouvez être complotiste, en fait, Charline? Pas du tout.
Bon, alors, malgré une version de plus en plus remise en cause...
Oh, le complotisme, allez, ça recommence.
Je continue, si vous permettez.
Non, bah, allez-y, mais bon, c'est un peu
je
limite.
Je continue, permettez-moi. Vous permettez?
Oui, mais c'est complotiste.
Ne m'interrompez pas, je ne vous ai pas interrompu. Malgré une version de plus en plus remise en cause dans l'affaire des incidents du Stade de France, Gérald Darmanin a reçu le soutien et la confiance du chef de l'État.
Bah évidemment, parce qu'il a tout bien fait, on vous dit, Gérald, le coup des massages gratuits offerts aux Anglais, mais, ça c'était quand même super.
Mais c'était pas des massages, c'était des coups de matraque dans les genoux.
Et voilà, c'est complotiste, et recommence le complotisme.
Selon le Canard Enchaîné. Le Canard,
arrêtez,
c'est le Canard Enchaîné.
Mais non, mais le complotiste depuis le début. On peut pas.
Je souffle si je veux, je souffle.
C'est pas Covid en plus. Vous allez me dire que le Covid n'existe pas, bah bien sûr. Allez, enchaînons, ça
souffler.
Fait déjà 15 minutes qu'on a commencé ce journal.
Moi je peux souffler, si je peux souffler, vous pouvez souffler.
Selon combien de temps que vous êtes ensemble le...
On est à l'antenne encore là ou pas?
Oui, Charles,
a priori on est à l'antenne, on peut continuer.
Allez Charles, mais c'est parce que... Et quand c'est pas lui, c'est Vizorek. Et quand c'est pas Vizorek, c'est lui. Ils se sont entendus les deux.
Voilà,
là.
Phrase typique de complotiste. C'est pas grave.
Et le Canard Enchaîné, c'est
oui, Canard Enchaîné, c'est la formation suivante.
Alors, on Emmanuel Macron, d'après le Canard Enchaîné,
oui,
a considéré comme pitoyable et honteux...
Oui, son premier quinquennat, oui, comme tout le monde, ça c'est classique, oui, on savait, bien
non,
sûr.
Non, et non, Emmanuel Macron a considéré comme pitoyable et honteux les violences au Stade de France.
Ah, pardon, oui, j'avais cru un éclair de lucidité d'un coup, mais en fait, non, d'accord.
Voilà, okay, allez, d'accord. Lucidité, cette fois, en effet, hier, c'était le Conseil de Paris avec le retour d'Anne Hidalgo.
Ah oui. Oui, si, Anne Hidalgo.
Et Rachida Dati.
Oui.
Pardon. A donc accueilli comme il se doit l'ancienne candidate à la présidentielle en lui reprochant son absence du Conseil de Paris.
Cette présence est aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle d'1,7%. Oui, ça fait mal. 1,7%.
20 000 voix.
Bah oui, 20 000 voix.
Eh oui.
Eh oui, ça fait mal. Vous pouvez couvrir. Non mais plus vous allez couvrir, je vais le répéter, 1,7%. 1,7%.
On rappelle les règles de base. Ne jamais se fâcher avec Rachida Dati. Jamais.
Eh oui,
jamais.
Transition.
Oui, transition.
Gilles Legendre est accusé de harcèlement sexuel et moral dans un signalement fait par Rachida Dati.
On rappelle les règles de base. Ne jamais se fâcher avec Rachida Dati. Jamais. Jamais.
Ouais, parce que quand Rachida Dati fâchée, elle toujours faire ça.
Tout à fait.
Hier, à l'occasion d'un déplacement en Corrèze, François Hollande a admis qu'il n'excluait pas de se présenter à la prochaine présidentielle.
Oh, allez, là, l'espoir renaît, le rêve, le retour de François Hollande et qui sait peut-être demain Pierre Jox ou Michel Charras. C'est incroyable, je comprends pas pourquoi les jeunes se désintéressent de la politique. C'est passionnant, quoi.
Et pour résoudre la crise de l'hôpital, Emmanuel Macron promet...
Oui, ça j'ai vu, des ouvertures de lits, l'augmentation des salaires du personnel soignant,
non,
etc.
Non, il promet une enquête flash.
Quoi?
Ah bah, c'est une enquête, ouais, mais flash. C'est une enquête flash. Une enquête flash, quoi.
Mmh. Ah, ouais, pas con.
Moi non plus.
Une enquête flash.
Maintenant que j'y pense, pas con.
Pas bête.
Bruno Le Maire a qualifié Jean-Luc Mélenchon de Chavez gaulois, ce à quoi les insoumis ont répondu que c'était toujours mieux que d'être un Thatcher normand.
Je comprends pas pourquoi les jeunes s'intéressent plus à la politique. C'est quand même passionnant.
Et à l'international, en Ukraine, eh bien, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, eh bien, il a imploré Emmanuel Macron de venir à Kiev et ce dernier a répondu qu'il le ferait en temps voulu.
Le temps, bien sûr, de faire une enquête flash, j'imagine.
Non, là, on est plus sur une investigation fils à fils.
Ah, c'est bien, ça change.
C'est bien. Et on termine avec le pape François qui a déclaré ce matin que l'on vit dans une ère des fausses nouvelles, de superstitions collectives et de vérités pseudo-scientifiques.
Et alors, qu'est-ce qui vous amuse là-dedans? Vous pensez que Dieu n'existe pas, c'est ça, Charline?
Bah, jusqu'à preuve du contraire, quand même.
Qu'est-ce que vous pouvez être complotiste? Mais c'est pas vrai. Et les papillons, les abeilles, qui est-ce qui a créé ça? C'est pas la marque de la perfection divine, ça? Il a créé tout ça, regardez, la perfection, il y a autour de nous, tout ça, c'est parfait, c'est Dieu. Tout est parfait sur Terre.
Même Alexandre de Vecchio?
Bon, ouais, c'est possible que Dieu n'existe pas du tout.
Quoi ce que vous voulez dire? Merci Guillaume Meurice.
J'ai fait une petite enquête flash dans ma tête et en fait c'est possible que Dieu n'existe pas.
Merci Guillaume. 17h29 sur France Inter et la pièce de théâtre inspirée du roman, inspirée de la vraie vie de Dumas fils. Et oui, dans cette vraie vie, il a eu une liaison avec une courtisane qui est inspirée. La dame aux camélias. Elle s'appelait Marie Duplessis. J'ai tout mis dans le désordre, vous remettez dans l'ordre et hop, on lance Juliette Arnoux.
Bim.
Et la vérité sur Marie Duplessis, bah, on la connaîtra jamais. Enfin, du moins sa vérité à elle, puisqu'elle n'a pas eu le temps d'écrire ses mémoires, qu'elle aurait pu intituler « Vivre vite, mourir jeune et laisser un beau cadavre ». En effet, en ce qui concerne « Vivre vite », bon bah Marie Duplessis n'a pas laissé sa part au chien, comme dit ma mère. « Mourir jeune », c'était prévu, hein. Elle était phtisique, tuberculeuse, d'où son extrême minceur et son timbale, et laisser un beau cadavre au vu des nombreuses créations fictionnelles directement inspirées par sa vraie vie et sa mort vraie, précoce, je pense qu'on peut lui accorder cela. Et voici donc le premier de ces pilleurs de cadavres, Alexandre Dumas le second, avec la dame aux camélias. Et si je préfère la pièce, c'est que la présence d'Armand Duval, même initiale qu'Alexandre Dumas, est moins envahissante dans la pièce que dans le roman. Alors il y a plus de place entre les répliques, plus d'ellipses pour, tout en écoutant la voix de Marguerite Gauthier, le personnage, laisser venir à soi la voix fantôme de Marie Duplessis. Et croyez-moi, cette voix, elle vient. Et si je me suis permise d'imaginer ce titre pour l'autobiographie de cette dernière, Vivre vite, mourir jeune, tout ça, nos futurs plus d'un siècle en avance, c'est que ces deux voix-là, Marguerite Gauthier d'un côté, Marie Duplessis de l'autre, mêlées, sonnent de la sorte, incrédules, lucides et d'une certaine manière anti-romantiques. Là, hurlement général. Mais comment, mais quoi? Marguerite Gauthier est l'incarnation de l'héroïne romantique, mais Juliette est une zinzin, certes. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit. De neuf, en tout cas. Des preuves, en voici. C'est le début de leur liaison à Marguerite et à Armand, et elle voudrait l'emmener Armand passer l'été à la campagne, loin de Paris. Bon, Armand, il a pas un rond. Elle répond, je s'occupe de tout. Et quand il découvre que cet argent, eh ben, elle l'a pas trouvé derrière d'un âne, Armand, il est hors de lui. Mais comment, mais quoi? Mais où est mon amour si pur? Eh ben oui, mais l'amour pur, ça paye pas la loc estivale du glu. Lui aurais-je dit, si j'avais été là, mais j'étais pas là. Marguerite Gauthier lui répond qu'elle n'a pas vu plus loin que cet été-là de bonheur, parce qu'elle a pas les moyens de viser PEL sur 30 ans, hein. Elle est phtisique, pas intolérante au gluten. Et que de toute façon, rien ne dure pour une fille comme elle. Alors, et je la cite, « Nous nous serions fait une amitié des restes de notre amour. Car l'amour qu'on peut avoir pour moi, si violent qu'on le dise, n'a même pas toujours en lui de quoi faire une amitié plus tard. Hein » Voilà, le romantisme, il est aux toilettes. Plus tard, d'ailleurs, quand le père d'Armand débarque de sa province pour lui dire que si elle aime vraiment Armand, alors il faut le quitter, que sans ça, la sœur d'Armand ne pourra pas épouser un homme convenable, blablabla. Marguerite abdique, alors qu'elle est vraiment amoureuse d'Armand, pile lorsque ce vicieux de père lui dit à Marguerite « Que restera-t-il de vos amours quand vous aurez vieilli tous les deux? Qui vous dit que les premières rides de votre front ne détacheront pas le voile des yeux d'Armand et que son amour ne mourra pas avec votre jeunesse ?» Marguerite, digne fille de la princesse de Clèves, qui disait, elle, à celui qu'elle aimait deux siècles avant, « J'avoue que les passions peuvent me conduire, mais elles ne sauraient m'aveugler. » Et la princesse de Clèves, eh ben, c'est pas Nunuche première. C'est pas l'héroïne romantique malmenée par la vie ou par un homme. C'est la femme qui semble se sacrifier, mais qui, en réalité, offre un sens à sa vie. Et quand le pote de Marguerite Gauthier, Gaston, lui dit « Elle est en train de mourir, vous êtes une honnête fille, Marguerite. » Eh ben, il a bien raison. Pour autant, Marguerite a le dernier mot, elle doit tiquer sur le mot « fille », qui à l'époque veut quand même dire « pute ». Et gentiment, doucement, elle est en train de mourir, elle lui rétorque « non, je suis un honnête homme ». Et là, Il devrait y avoir un H majuscule à homme. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, merci beaucoup pour cette lecture en deux temps. On peut réécouter bien sûr les deux en podcast ou en vidéo. Juliette Arnaud, et pour cette fiche de lecture, on ne sait jamais, c'est peut-être... Ça peut servir en fiche de lecture.
Bah, si vous êtes physique déjà.
Je me tourne plutôt vers Frédéric Sigrist à ce moment-là. Vers Frédéric. Blockbuster revient cet été?
Oui, tout l'été. De 17h à 18h, je crois que c'est un créneau. Baby, que vous connaissez bien.
Vous prenez la succession de cette émission tout l'été, alors.
Oui, tout l'été.
Bien. Et le dernier podcast disponible de votre
émission? Le dernier en date, c'est une très bonne question.
Enfin, Mad Max.
Si c'est Mad Max, voilà, parce que je suis déjà sur le prochain. Et voilà, qui sera Gunm, de Yukito Kishiro. Un manga très, très connu des aficionados. Voilà.
Très bien. Ils sont toujours disponibles en podcast bientôt.
C'est ça.
En direct, dès le...
Jeudi. En général, on enregistre le mardi. Ouais. Et paf, le jeudi, il arrive, il est tout chaud comme ça, il sort du four.
Et le Blockbuster, ce sera quoi, le 4 juillet?
Voilà, c'est ça. Et puis mon décès, c'est mi-août.
Oui, mi-août, comme tous les gens qui font l'antenne l'été.
Voilà.
Et je suis bien placée pour le savoir. Guédré s'est avancée vers le piano, car elle chante des chansons très romantiques, notre amie Guédré, n'est-ce pas?
Bien sûr. À l'école, tu l'auras remarqué, parfois tu es amoureux comme un fou, mais la fille dont tu t'es amouraché ne veut pas de toi du tout. Ça te fâche, t'es pas content, ça fait jamais plaisir d'être rejeté, mais sache que quand tu seras grand, tout sera plus simple, tu pourras la violer. Mais avant de violer une fille ou de l'agresser sexuellement, assure-toi que tu fais partie de ceux qui peuvent le faire impunément. Que l'on séparera l'homme que tu es du violeur que t'es de temps en temps. Qu'il y aura autour de toi des gens pour dire que oh, ça va franchement. Faut-il séparer l'homme de l'artiste? Faut-il séparer l'homme du ministre? Ouais, ça dépend, je sais pas, il a fait quoi? Ah, c'est compliqué, tu vois, tout le monde s'embrouille. Peut-être que le plus simple, c'est de séparer l'homme de ses couilles. Si une fois adulte, ton truc à toi, ce sera de droguer des gamines pour les sodomiser, inscris-toi tout de suite en école de cinéma. Une palme d'or et tout est oublié. Si t'es plus viol traditionnel, un truc classique, rien de très croustillant, vise l'ENA en bossant dur dès la maternelle et trouve-toi une place au gouvernement. Si tu t'orientes vers un viol avec complice sur touriste canadienne, dans Parcoursup écrit en gros police au 36 quai des Orfèvres, en vrai ça passe crème. Bref, assure-toi que ton statut social te permette de violer au KLM, que grâce à tes relations ou ton travail, tu t'en tireras sans problème. Faut-il séparer l'homme de l'artiste? Faut-il séparer l'homme du ministre? Ouais, ça dépend, je sais pas, il a fait quoi? Ah, c'est compliqué, tu vois, tout le monde s'embrouille. Peut-être que le plus simple, c'est de séparer l'homme de ses couilles. Le problème, c'est que faire de toutes ces couilles qu'on aura enlevées à leur propriétaire, car ça fait quand même des milliards de couilles. On pourrait en faire des pendentifs ou de l'engrais pour le jardin, mais même en étant très inventif, il nous en resterait quand même plein. Peut-être que le plus sage, ce serait de créer un permis qui autoriserait le port et l'usage de ces bijoux de famille. Ouais, je sais que not all men, mais tu noteras que l'autre quand même. J'ai pas de solution, mais j'ai un vrai problème, c'est les gens qui violent au KLM. Faut-il séparer l'homme de l'artiste? Faut-il séparer l'homme du ministre? Ouais, ça dépend, je sais pas, il a fait quoi? Ah, c'est compliqué, tu vois, tout le monde s'embrouille. Peut-être que le plus simple, c'est de séparer l'homme de ses couilles.
Waouh, Guédré!
Quand vous jonglez comme ça, je sais pas. Enfin, faut trouver des solutions, quoi en faire.
Merci beaucoup, Guédré.
Le silence qui suit une chanson de Guédré est encore du Guédré.
Oh là là, c'était trop bon en fait. On a envie de se la réécouter.
Oui, c'est pour tous ces hommes congestionnés sur leur écran comme ça.
Et à partager massivement. On va la mettre en vidéo. Guédré, je rappelle, vos chansons romantiques au piano sont disponibles, bien sûr. Oui, on a l'image. Hein.
Les petits pendentifs. Ouais, ouais, ouais,
ouais. Guédré qui souvent porte, des boucles d'oreilles en cerise.
Oui, voilà, ça ce sera pour changer. Pour l'été peut-être, un peu plus estival.
Voilà, pour cette tournée que vous appelez la tournante, oui, par exemple, absolument, dans toute la France. C'est Guédré, bien sûr. Juliette, qui est autour de la table?
Eh bien, on a déjà eu les number one top of the list, Laurence Bibeau, Juliette Arnaud et Guédré. On ne se tient plus à attendre les Kings of the Hill, Laëlia Véron et Frédéric Sigrist, mais avant, celui qu'on appelle le laxatif des humoristes.
C'est qui?
Ne me demandez pas pourquoi c'est Guillaume Meurice, je pourrais vous répondre parce qu'il nous fait chier.
Merci pour ce bon lancement. Alors, petit sujet léger aujourd'hui, petit sujet simple et funky, les enfants français des djihadistes partis en Syrie. Bon, c'est sympa, c'est frais, hein, c'est l'été, c'est les pitchouns du djihad. Alors, je le fais parce que CNews a été un petit peu léger sur le sujet, parce qu'un papa, une maman, bah, on ne ment pas aux enfants, ça on le sait, mais un papa et huit mamans, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on ne sait pas. Hein, pas de gros traitement de l'info à l'extrême droite. Même Alexandre Devecchio, notre morasse subventionné, n'a pas été très complet sur la question. Alors je m'y colle. Il s'agit évidemment d'enfants français qui sont en Syrie, mais pas de leur propre volonté. Hein, c'est pas les gamins qui ont eu le déclic en décapitant des Playmobil ou en lisant Petit ours brun explique la charia. Non, c'est pas non plus des enfants en fugue. Voilà, faut bien expliquer. On sait que parfois les enfants sont ingrats. Je pense notamment à la chanteuse Angèle, qui est richissime, riche à millions, mais qui envoie quand même sa mère piger pour une misère par Jupiter. Donc c'est vraiment des enfants qui sont nés là-bas de parents français ou qui sont partis quand ils étaient très petits en bas âge et qui sont aujourd'hui dans des camps de prisonniers. Alors, qu'en pense le peuple de France? Ben, je suis allé le voir ce matin. Doit-on rapatrier ces enfants?
Non, ils sont bien où ils sont.
Alors justement, là, ils sont pas très bien où ils sont.
On ne sait pas. Vous les avez interviewés là-bas? Allez-y, monsieur. Allez en Syrie. Okay. Après, vous leur poserez des questions et comme ça, on pourra vous répondre.
Ah ben oui, mais bonne idée. Mais bonne idée, un petit micro-trottoir dans un camp en Syrie pour demander aux gamins s'ils sont heureux. Parce que, mais non, parce qu'au final, on ne sait pas. Si ça se trouve, ils sont bien, ils ont des fraises Tagada, des concerts d'Aldebert. Ça fait quand même 6 mois qu'on l'a pas vu, celui-là. Coïncidence? Bon, je ne crois pas. Donc, ce monsieur est pour les laisser là-bas. Hein.
Les parents ont voulu que ça soit comme ça. Les hôteliers, les bistrots, les restaurateurs, ils n'ont pas de main d'œuvre. Ils vont faire venir des Marocains, des Tunisiens. Il y a 6 millions de chômeurs en France.
Alors attendez, quel est le lien avec les enfants?
Ah ben c'est la même chose.
Oui?
On n'a pas besoin d'eux. Et je ne suis pas un homme de droite.
Ah, bah oui, c'est bien de le préciser. C'est toujours bien de préciser, parce que qu'est-ce que ça aurait été sinon? Donc là, on a un bon bingo. Enfants prisonniers, restaurateurs qui cherchent du personnel, Tunisiens. Il manquait juste burkini et couscous. Et on avait le quintet plus dans l'ordre. C'est dommage, ça ne joue à rien du tout. Du coup, on continue avec toujours un peuple de France préoccupé par le sort de ses enfants.
Mais on a autre chose à foutre, non?
Ouais.
Bah, s'occuper des gens qui sont malheureux ici, pour les rendre plus heureux.
Bah là, c'est des gamins qui sont malheureux là-bas.
Ils vont vous prendre le pays, vous allez comprendre.
Oui, c'est vrai qu'il y a un risque. Non, mais c'est vrai qu'il y a un risque qu'un enfant de 2 ans fasse un putsch ou un attentat à la couche piégée, ça arrive toujours. Hein, ou fomente un complot contre l'État. D'ailleurs, Gérald Darmanin fait déjà état de 40 000 fausses places en crèche qui auraient été réservées par Daesh. Donc c'est quand même assez grave, il y a quelque chose qui est à surveiller de près. Et le peuple veille, hein.
C'est la faute des mères, enfin des mères et des pères, enfin c'est leur faute et c'est comme ça la vie en fait.
Et est-ce qu'il faut les rapatrier les gamins alors?
Moi je suis moyennement.
Vous êtes moyennement pour les rapatrier?
Oui.
Ça veut dire quoi les rapatrier moyennement?
C'est très compliqué.
Ça s'annonce pas simple. C'est pas simple comme ça de les rapatrier moyennement en plus. Qu'est-ce que ça, moyennement, c'est-à-dire on les rapatrie mais de manière pas ouf. Hein, pas ouf. C'est-à-dire on les rapatrie mais il n'y aura pas de Toblerone ou Duty Free. Voilà, c'est comme ça. Alors est-ce que quand même faut pas protéger ses enfants?
Oui, il faut protéger, mais je dis, moi, en faisant que les associations s'en occupent là-bas, prennent les enfants, qu'il y ait des fondations. Je sais pas, on peut construire quelque chose, faire quelque chose.
Il faudrait une fondation Enfants du Djihad à Damas.
Oui.
Ouais. Parce
qu'il a pas
de merde, c'est tout.
Oh putain! Ah mais c'est Roger! Mais c'est Roger qui débarque! Mais ça c'est un moment alléché par le thème, hein, il a laissé traîner d'oreilles. Et je vous rappelle que Roger est diplômé en géopolitique de l'Académie de Chablis, où Juliette d'ailleurs donne des cours régulièrement. Alors c'est vraiment le coup de bol de tomber sur Roger. Allons-y avec Roger.
Mais écoute, ils vont là-bas, ils se démerdent, écoute, dans le sens, écoute. Ils vont là-bas, les parents, ils savent à quoi s'en tenir. Les parents, ils sont c'est des cons maintenant, de toute façon. Hein, faut tout leur donner, faut tout leur faire. On leur doit tout, de toute façon, les gens.
Les trois quarts des parents, c'est des cons?
Oh, une grande partie.
Oui, les chiffres sont encore un petit peu imprécisés. On est vraiment sur une estimation, mais on peut s'accorder sur les trois quarts des parents sont des cons. Il y en a, hein, d'ailleurs. Hein, voilà. Donc là, on est à peu près proche des chiffres. Voilà. Et Roger, c'est, il est spécialiste, parce qu'il participe à l'Observatoire de la connerie, il a une bonne expertise là-dessus, et il est également spécialiste de comparaison.
Oui, ils se démerdent. Ils vont dans les coins et ils se démerdent. Là, c'est comme celui qui va, comment je dirais, et qui fait du surf en mer et puis il se fait embarquer par les vagues et puis qui meurt.
Quel rapport entre le surf et le GL ?
C'est-à-dire qu'ils se démerdent. Ils vont dans les endroits, ils se démerdent.
Ils se démerdent. Voilà, si les enfants de 2 ans veulent faire du surf dans les vagues, ils se démerdent. Ils se démerdent. En attendant, l'extrême droite continue, elle, à surfer sur la thématique. Hein. Les gamins sont évidemment toujours bloqués là-bas et le gouvernement fait rien du tout, fidèle à son éternel slogan « Honte Akbar ».
Oh là là, Guillaume Meurice, fouilloui.
Bah, c'est pitchou.
C'est pas sur la réaction, fouilloui. Oui. Il ressemble à quoi, Roger ? On a envie de savoir un peu.
Il est plutôt petit, plutôt souriant, plutôt d'apparence sympathique.
Ouais.
C'est juste, voilà, je vous encourage d'engager la conversation avec lui. Prenez 2 heures devant vous de votre temps. Voilà, si vous le croisez sur le marché.
Non, on préfère l'avoir dans les oreilles.
Ça passe comme vous voulez, hein, vous risquez d'être payé.
Merci Guillaume. On passe aux exercices.
Allez, allons-y.
Allez, Juliette.
Oui, j'y vais.
Ouais.
je suis super prête. La semaine de 4 jours va être testée à grande échelle au Royaume-Uni. Mais ce n'est pas la première fois que l'on teste ce genre de choses. Dans la liste suivante, trouve les réponses qui sont vraies. Réponse A, les stadiers du Stade de France travaillent à mi-temps. Réponse B, Jean-Michel Blanquer a fait son mandat en 4-3. 4 jours de boulot, 3 jours de fête à Ibiza. C, les Français à Roland-Garros travaillent une semaine sur deux. J'ai honte, vraiment j'ai honte. J'ai honte. Réponse D, Alex Vizorek fait la semaine de 1 jour par semaine sur Jupiter.
Alors demain, figurez-vous que les diplomates seront en grève. Eh ouais.
Oui.
Pourquoi ? Le sais-tu ? Petit A, parce qu'ils pleurent le départ de Jean-Yves Le Drian. Petit B, parce qu'ils lancent le mouvement hashtag balance ton passeport. Petit C, ils se rebellent contre la réforme de la haute fonction publique. Ils se rebellent très très fort. Petit D, ils alertent sur la situation du corps diplomatique qui a été complètement décimé il y a un mois par le scandale sanitaire chez Ferrero. Guillaume.
Oui, on en parle depuis samedi. Donc selon Gérald Darmanin, il y aura eu environ 40 000 faux tickets pour la finale de Champions League. Mais c'est pas la première fois qu'on utilise des faux. Donc dans la liste suivante, trouve les bonnes réponses. Proposition A, lors des meetings d'Anne Hidalgo, il y a eu 40 000 faux spectateurs recensés. Proposition B, Manuel Valls a utilisé un faux ticket pour s'incruster au premier rang sur le Champ de Mars lors de la soirée de victoire d'Emmanuel Macron. Proposition C, Nicolas Sarkozy a aidé Valérie Pécresse à rembourser sa campagne mais avec des faux billets. Plusieurs propositions sont possibles bien sûr. Et proposition D, depuis 10 ans, Quentin Dupieux utilise des faux scénarios imprimés sur des post-it pour réaliser des films. Possiblement toutes les réponses sont valables. Voilà, faut trouver à vous de jouer les pitchounes.
Et oui, si vous êtes curieux de connaître la bonne réponse, à consulter notre page Facebook, bien sûr. Merci Guillaume et merci Juliette. Alors, vous savez qu'avant, la seule chronique sur la langue française se trouvait uniquement dans le Figaro. L'officine de l'Académie française.
Et heureusement que vous êtes là pour relever le niveau scientifique.
Voilà. Donc, dans notre souci d'apporter de la nuance au débat, ce qui est vraiment notre marque de fabrique, c'est la nuance, par Jupiter vient rétablir l'équilibre, parce que c'est vraiment l'ADN de cette émission.
Oui, l'équilibre, la nuance, contre tous ces fumiers de l'Académie française. Ah oui, non, pardon.
L'équilibre de la parole sur la langue. Voici donc notre linguiste et stylisticienne, Laëlia Véron.
Merci Charline. Alors, dernièrement est paru dans Le Monde un article qui imaginait qu'au XXIe siècle, les linguistes allaient étudier la disparition du mot « oui » au profit de l'expression « c'est ça ». Alors, c'est très sympa d'évoquer les linguistes, mais ce serait encore mieux de citer leurs travaux parce qu'aucun linguiste ne dit ça. Et pour cause, parce que selon les enquêtes de Corpus Actuel, « oui » fait partie des mots les plus fréquemment employés. Après quoi ?
Non. Okay.
Non. Il y a « non » aussi, bien sûr. Et il y a aussi « eux » qui fait partie des mots les plus employés, « eux ». Voilà. Ce n'est pas la première fois que le « ça » est pourfendu. Sur le site de l'Académie française, « ça » est décrit comme un pronom fourbe, je cite. « Ça » est présenté donc comme un pronom fourbe, une variante familière à proscrire et à remplacer par le pronom « cela ».
Ah ben, ça a commencé ?
Ben oui, ça a commencé.
Jugement de valeur et Alain Finkielkraut, mis à part, à quel point c'est vrai ? Peut-on remplacer « ça » par « cela » tout le temps ? Rappelons que ce sont deux pronoms démonstratifs, apparus au XIVe siècle pour « cela » et au XVIIe pour « ça », et que tous les deux renvoient un élément non déterminé, contrairement à « celle » ou « celui ». Et c'est vrai que « cela », dans certains cas, peut sonner comme une forme un peu plus soutenue ou snob de « ça ».
C'est cela, oui, oui.
Il fallait la caser, hein. Mais ça peut avoir une valeur stylistique. De nombreux écrivains ont joué avec le ça, notamment dans les incipits, les premières phrases, pour accrocher le lectorat avec l'amorce d'un récit énigmatique. Si je vous dis, ça a débuté comme ça, est-ce que vous reconnaissez le livre ?
Oh, Juliette, c'est... je cherche.
C'est Voyage au bout de la nuit de Céline, hein, avec deux ça dans la avec deux ça dans la première phrase, et on reste donc dans l'indistinct avec ce ça. Il va falloir, comme le dit le chercheur Jérôme Mézos, le déplier et développer le ça initial, synthétique, indéfini et mystérieux. Un autre incipit, je sentais que ça allait venir, incipit de Indebomine de Giono. Là, je vous demande pas. Hein. Dans ce cas-là, on aurait pu effectivement remplacer syntaxiquement et dire. Je sentais que cela allait venir, syntaxiquement ça marche, mais on aurait gommé un peu le style oralisé. Cependant, dans plein d'autres cas, ça et cela ont des emplois autonomes. Petite méthode linguistique que tout le monde peut appliquer. Quand on vous dit il faut remplacer un mot par un autre, qu'il s'agisse d'un pronom ou d'un anglicisme, testez-le, essayez pour voir si ça marche dans l'usage. C'est ce qu'a fait la linguiste Marina Jagello dans son dernier ouvrage, et elle trouve plein de cas où les formes « ça » et « cela » ne peuvent pas être substituées l'une à l'autre. Un exemple. C'est dur à chanter avec « cela » et on peut trouver plein d'autres exemples. Si je vous fais une démonstration par l'absurde, imaginez la conversation dans les couloirs de l'académie. « Comment cela va, cher confrère ?»« Comme si, comme cela, avec l'âge, ça s'arrange pas, j'ai quand même 90 ans, cela alors, vous voyez, dans toutes ces expressions figées, de fait, on ne va pas pouvoir remplacer ça par cela. Et comme le montre la grande grammaire du français, ma grammaire préférée, ça a un domaine d'application très large. C'est cette plasticité qui fait son intérêt, mais aussi son ambiguïté. Et une dernière petite référence pour finir, il y a toute une pièce de Nathalie Sarraute où deux amis s'embrouillent autour d'une toute petite phrase que l'un a prononcée et que l'autre a mal prise. La phrase c'est bien ça. Et ça, c'est une pièce qui s'appelle « Pour un oui, pour un non ».
Ah, jolie chute, merci Laëlia Véron. Est-ce qu'il y a aussi un film qui s'appelle ça ?
C'est de Stephen King, mais cela de Stephen King, ça fait pas du tout. Hein.
Bah, surtout, ça fait pas vendre.
Bah oui, bah, cela fait pas vendre.
Donc ça tient tout seul.
Oh,
ça.
Ouais, tout à fait.
Très bien. Laëlia Véron, merci beaucoup.
Merci,
on va
Charline.
Vous retrouver la semaine prochaine, bien sûr, mais vous restez avec nous. Nous ont rejoint Pete Doherty et Frédéric Lau.
Bah, bonjour Pete.
Ouais, j'avais son 06, je l'appelais.
The best laid plans can oft go to fuck. We run down B&Bs, can turn to luxury. A wish that is wasted still can be granted. Hope that is doped still can be planted. I search and I search, I lurch headlong into atrocity. With an exponential no, no need to epidemiology. Little pink Enzo, little blue Benzos. Hip hop, bebop, all blues and punk rock. All heads that are shrunken still can be clever. Ships that are sunken still can hold treasure. I search and search and live headlong into atrocities with a velocity known only to very few rational. Headlong into such atrocities with an exponential known only to epidemiology. Dashiell Hammond, Emile Lajar, Peter Lorre, Humphrey Bogart, James Seabird, Daniel Dark. Panic in the streets and panic in Needle Park. Oh yes, I search and I search. I lurch headlong into atrocity. With an exponential known only to very few ever.
Sur la playlist France Inter, Pete Doherty, Frédéric Lowe, le titre The Epidemiologist. Sur France Inter, il est 17h53. Et la Jupy Masterclass de cinéma vous est proposée aujourd'hui, vous le connaissez bien, par Frédéric Sigrist.
Oui, alors le Festival de Cannes s'est achevé la semaine dernière et lorsqu'on m'a demandé d'écrire une masterclass cinéma pour cette émission, j'ai immédiatement songé à chroniquer un film exigeant et socialement engagé, Le Dernier des Pléchins ou Le Dernier d'Ardenne, hein, compte tenu de l'érudition de certaines de vos intervenantes, Juliette Arnaud, Laëlia Véron, Laurence Bibot. Et puis je me suis souvenu que dans l'émission, il y avait aussi Aymeric Lompré. Donc j'ai très vite scié les pieds du piédestal sur lequel je vous avais placé. Alors attention, je ne doute pas qu'Aymeric soit brillant quand il est sobre. Le souci, c'est que je ne l'ai jamais vu sobre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un film bien plus abordable, Le 13e guerrier de John McTiernan. John McTiernan, c'est le réalisateur de Piège de cristal, de Last Action Hero, de Predator, qui n'est pas le surnom que ses collaboratrices donnent à Damien Abad. On dit du 13e guerrier à Hollywood que c'est un chef-d'œuvre avorté. Oui, parce qu'aux États-Unis, même les films ont plus de droits que les femmes. Un film maudit qui ne s'est jamais remis de l'ingérence des producteurs, mais aussi de l'auteur du livre dont le film est inspiré, Michael Crichton. Hein, des fois, faire un film à Hollywood, c'est un petit peu comme vous, Charline, quand vous essayez de faire une phrase à côté de Guillaume. Vous avez peu de chance, là, vous êtes souvent interrompu. Bah, c'est pareil quand tu fais un film à Hollywood, tu dis, ah non, j'ai quelque chose à dire. Alors déjà, le titre, Le 13e guerrier. Quand on dit de toi que tu es le 13e guerrier, tu sens bien que t'étais pas le premier choix. Hein, je le sais, vu qu'Alex m'appelle le 48e chroniqueur. Ah, le film aurait aussi pu s'appeler La 5e du carrosse, Qui tient la chandelle ou Manuel Valls encore téléphoné. Bref, c'est un film sur celui que l'on n'a pas vu venir. Et ça tombe bien qu'on ne l'ait pas vu venir parce que le personnage principal du film est un poète arabe du 10e siècle, Ahmed Ibn Fadlan. Et comme aurait pu le dire Eric Zemmour, si on l'avait vu venir, on ne l'aurait pas laissé entrer. Le 13e guerrier en question, le narrateur de ce film américain qui date de 1999, rendez-vous compte, c'est un musulman pratiquant. What the fuck? Alors attention, un musulman pratiquant, mais incarné par Antonio Banderas. Ah, oui, ah, oui, un acteur espagnol. Oui, ça c'est la magie des castings hollywoodiens. C'est comme ça que ça se passe. Je pense qu'Antonio, il est rentré, on lui a dit « Ah c'est bien, vous avez les cheveux noirs, vous avez un accent, dites voir un truc arabe, 1, 2, 3, 4, ah merveilleux, des chiffres arabes, c'est parfait, vous êtes l'homme de la situation. » Ça c'est l'avantage de faire des films pour un public qui n'a jamais voyagé. Hein, tu peux leur faire croire n'importe quoi. D'ailleurs, si vous écoutez les films en version originale, quand ils te mettent un français, en général dans un film, ce qu'il dit n'a aucun sens. « Oh ma chérie, la maître des cérémonies m'a servi des cuisses de poulet, merci beaucoup mon ami. Oh, I love French, he's so sexy. » En même temps, en France, on fait pareil. Hein. Gérard Jugnot a joué Ali Baba. Gérard Depardieu a joué Alexandre Dumas. Philippe Torreton a joué Othello. Sa gueule au grand remplacement dès qu'un arabe ouvre une boulangerie. Par contre, Isabelle Huppert qui joue Cléopâtre, ah, ça c'est open bar, c'est Black Thor Studio. Et donc, Antonio Banderas, dans Le 13e guerrier, il joue un musulman qui va devoir faire équipe avec un groupe de vikings à la langue et aux croyances totalement différentes. Parce que Le 13e guerrier, c'est avant tout ça, un film sur la capacité, avant tout un film sur cela. Un film sur la capacité à communiquer ou non, avec l'autre, avec celui que l'on appelle l'étranger. Au début de son voyage, Ahmed ne comprend pas ses camarades vikings, et le spectateur non plus, car leurs dialogues ne sont pas sous-titrés. C'est un petit peu comme Jean Lassalle qui parle avec Michel Rocard. Qu'est-ce qu'ils disent? Et puis, dans une ellipse de plusieurs mois, passée à leur côté, dans des magnifiques scènes éclairées à la flamme d'un feu de camp, Ahmed et le spectateur se mettent à saisir un mot, puis un morceau de phrase, et enfin, toute la conversation. Le film peut alors intégralement se passer en anglais, même si le spectateur a désormais conscience que les personnages, eux, ne se parlent pas en anglais. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi qui n'en peux plus de voir des extraterrestres débarquer sur Terre en parlant anglais, putain! Parce qu'admettons qu'ils se soient renseignés sur les langues les plus parlées sur Terre. Les aliens, ils devraient parler mandarin! Bref, c'est une colère de geek, excusez-moi. Et ce que je trouve magnifique dans ce film, outre une manière de filmer la nuit avec des sources de lumière naturelles et la bande-son fabuleuse de Jerry Goldsmith, c'est qu'Ahmed, à la fin du film, ne deviendra pas un polythéiste viking, pas plus qu'eux ne deviendront musulmans. Il restera un musulman pratiquant et eux des vikings, ce qui ne les empêchera pas de combattre ensemble et même de se respecter. Et que ça fait du bien de voir ça. Alors je sais, encore la bien-pensance de ça. Je sais que c'est naïf, mais je m'en fous, je vous emmerde. Quand on t'explique tous les jours que le burkini c'est comme le chlore, faut pas trop en mettre dans les piscines. Quand tu vois qu'une ex-rappeuse qui a le malheur de dire qu'elle s'est épanouie dans la religion comme d'autres se sont épanouies dans le crossfit, je veux dire, ça regarde qu'elle. Ça provoque plus de réactions indignées qu'un rapport du GIEC. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, comme le montre ce film, de montrer que les croyances des autres ne sont pas forcément un obstacle insurmontable. Ça reste une affaire personnelle, tant qu'on parvient à réaliser des grandes choses ensemble.
Merci Frédéric Sigrist. jury masterclass de cinéma. Et merci à toutes et à tous. Merci Guy Edré, Laëlia Véron, merci Laurence Bibot, Juliette Arnaud, merci Guillaume Meurice et Frédéric Sigrist. Je vous dis à demain. En compagnie de Juliette, nous recevrons l'humoriste Shirley Soignon pour son spectacle Être humain sur le thème du nous, du collectif.
Quand vous parlez de la charité des hommes, moi ça me fout le voile rouge, je préfère mes chiens.